Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Digression. Dans cet épisode 12, on a parlé d'un sujet qui nous tient énormément à cœur avec Tom, c'est le sujet de la connaissance. Comment apprendre à apprendre, apprendre plus de choses, ou encore, comment gérer les connaissances qui arrivent dans notre vie. Tom nous a même divulgué sa drôle de technique pour apprendre des nouveaux mots dans sa vie quand il les comprend pas. Moi, j'ai pas trop compris sa technique. Tu me diras ce que t'en penses. Vous êtes de plus en plus nombreux à noter ce podcast et à nous faire des retours sur Instagram. On vous remercie vraiment. Si c'est pas encore fait, n'hésite vraiment pas à nous mettre une petite note sur ta plateforme de podcast préférée. Ça nous aiderait énormément. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute et une très bonne semaine.
Ça t'est arrivé récemment d'apprendre un truc, genre tu connaissais rien du tout dessus avant et de découvrir totalement?
C'est rare que j'apprenne des choses, hein.
À ce point-là.
J'apprends très peu de choses.
J'arrive pas à savoir si t'es premier degré ou pas, en fait, et je me dis je peux pas être premier degré.
Les derniers livres en date que j'ai lus comportent pas mal de choses assez nouvelles pour moi, et j'essaie toujours de garder un équilibre entre consolider des connaissances dans les sujets que j'aime beaucoup et que je maîtrise déjà en partie, on va dire.
Ouais.
Et avoir des nouvelles connaissances assez nouvelles, en fait. J'ai lu, par exemple, il y a quelques semaines, un livre d'astronomie, et non pas d'astrologie.
Sur ma recommandation ou pas?
Sur Taroko, ouais. On avait déjà parlé dans un ancien podcast. Je viens de finir de lire un livre de psychologie, qui est plus en rapport avec mon domaine d'expertise, entre guillemets, mais qui lit ça à... aux statistiques et aux probabilités.
Ouais, que tu recommandais dans le podcast derrière.
Ouais, qui s'appelle Rationalité de Steven Pinker. Et j'ai appris pas mal de choses sur les probas, tu vois, sur les statistiques. Alors, moi, j'ai même pas les bases hein, dans ces domaines-là, donc c'était cool.
T'as fait ES, hein?
Non, j'ai fait L, justement.
Ah oui, ok, d'accord.
Donc c'était assez cool de connaître ça, surtout qu'en fait, on se rend compte ce livre
Que je suis désolé,
la rationalité et les statistiques sont pas mal liées. Donc, c'est pas mal d'avoir des connaissances transversales, quoi.
Ouais.
Voilà pour... C'était une réponse complète, je pense, non?
Ah bah,
parce que c'était justifié.
Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Mais, N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles.
5 étoiles.
Et puis, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Je me rappelais d'un truc. Quand t'es en L, tu vois zéro proba, non? Genre, tu fais même pas le début d'un...
Zéro.
Ouais.
Zéro. En troisième, je crois que j'avais eu un petit chapitre sur les probabilités en maths.
Okay.
C'est-à-dire qu'en gros, si tu tires une pièce à pile ou face, il y a 50% de chances que ça tombe sur pile, 50% de chances que ça tombe sur face.
Ouais, ouais, c'est pas totalement... c'est pas le niveau avancé, quoi.
Et genre, c'est tout. Mais j'aimerais beaucoup travailler sur ça. En fait, j'aimerais beaucoup, je disais ça en fin de podcast la semaine dernière, travailler mon esprit à penser très abstrait, ce que j'ai pas mal de mal à faire, en fait.
Mais du coup, t'as une idée de genre comment est-ce que tu pourrais progresser justement dans le fait de penser de manière plus en plus abstraite?
Bah justement, j'essaye de travailler sur ça. Bon, je le travaille pas ultra intensément, mais de temps en temps, je vais lire des bouquins sur des trucs un peu plus abstraits. Mais j'ai toujours un peu de mal avec ça, quand c'est pas dans le réel, tu vois.
Mm-hmm.
Parce que je lis souvent des trucs, que ce soit, j'allais dire la philo, mais en fait pas du tout. Mais quand même, la philo, il y a quand même un caractère, je sais pas. En fait, peut-être que je me rends compte qu'il y a plusieurs types d'abstractions et l'abstraction philosophique ne me pose pas de problème. Mais quand ça a trait à la science, plus dur, j'ai plus de mal. Mais je sais pas d'où ça vient du coup. Tu penses qu'il y a un caractère inné là-dessus?
Déjà, j'ai juste une première question, mais genre, ce que tu appelles un bouquin de philo, tu penses à quoi? Et je te demande ça parce que, par exemple, t'as plein de bouquins de dev perso qui font appel à de la philo, mais qui sont pas des vrais bouquins de philo. Genre, clairement, t'es pas en train de lire du Kant, du Nietzsche, ou tu vois, des bouquins vraiment
des purs
qui parfois sont
philo.
Un peu solides, tu vois. Et voire même qui sont pas forcément des romans philosophiques, parce que c'est pareil, t'as aussi un peu une nuance par rapport à ça. Genre, typiquement, si tu lis du Michel Foucault, du Derrida, du Simone de Beauvoir, ou des trucs comme ça, un peu solides, très théoriques, etc., c'est beaucoup moins lisible que... du Jonathan Haidt, et qui pourtant relève de la philosophie, tu vois.
Non, je pensais bel et bien à de la philo plus
dure. Ok, des trucs,
ouais. Mais très théorique et tout. C'est quelque chose que j'ai pas de mal à comprendre si je me pose un peu sur la question, ouais. Alors que certains passages de certains chapitres de bouquins que j'ai lus, par exemple, qui avaient trait
aux statistiques, bah, je me disais, bon, tu comprends juste pas, n'y passe pas 40 minutes et passe le truc, tu vois.
Et c'est... alors, du coup, j'ai pas lu le livre dont tu parles, donc...
En l'occurrence, le livre dont je parle, ça va, il est pas ultra ardu, mais je fais référence à d'autres livres où c'est un peu plus ardu.
T'as un exemple en tête ou pas trop?
Ouais, je sais pas si tu connais le bouquin Système 1, Système 2. C'est un livre assez connu en termes de psychologie.
C'est pas Thinking Fast and Slow, si, exactement, comme ça en anglais. Exactement.
Et il y a toute une partie statistique. Bah, d'ailleurs, dans Rationalité de Steven Pinker, il s'appuie pas mal sur les travaux de Daniel Kahneman, qui est un psychologue de renom qui a notamment
écrit,
qui est à la base de ce qu'on appelle, enfin, qui a défini mal de biais cognitifs. Et il s'appuie pas mal sur les statistiques, en fait. Et je me suis rendu compte, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup développer mes connaissances dans tout ce qui est statistique et probabilité, qu'on ne peut pas parler de biais cognitifs, on ne peut pas parler de psychologie et d'irrationalité sans faire appel, à partir d'un certain niveau de rigueur, aux statistiques, tu vois. Donc j'aimerais bien développer dans ce sens-là.
Tu serais capable d'expliquer pourquoi ?
Bah, vu que j'aime bien les cas concrets, tu vois, genre dans une mise en situation, se baser sur des amalgames, ça peut être résolu ou non par les statistiques.
Ouais, ok. Tout simplement. Non, c'est ce à quoi je pensais, ok, c'est clair.
Genre, quelle est la meilleure décision rationnelle à prendre dans une situation ? Ça peut se baser sur les statistiques et les probabilités. Il y a le niveau 1 de compréhension qui est « Ah, l'homme est un animal irrationnel, on a des biais cognitifs », ça c'est le niveau 1. Le niveau 20, c'est comprendre les statistiques. Et vu que j'ai envie de creuser dans ce sens-là, j'ai l'impression que je vais être obligé, entre guillemets, de m'y frotter à un moment donné, même si c'est pas le moment le plus facile, tu vois.
Ouais.
Pour répondre à ta question, je crois que tu me demandais ça au début de ce podcast. Les nouvelles connaissances que j'apprends, j'essaye toujours de les relier à des branches que j'ai déjà dans mes connaissances principales, tu vois. Un peu comme un arbre de la connaissance. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Par exemple, si tu m'avais présenté, par exemple, un auteur comme Nassim Taleb, qui est aussi statisticien, il parle beaucoup de statistiques dans son livre. D'ailleurs, il a toute une partie statistique à la fin de ses livres en général, où en gros, il explique ses concepts.
C'est les démonstrations. Ouais. Et
moi, je ne les lis jamais, tu vois, je ne comprends pas. Mais un écrivain comme Steven Pinker, il a ramené ça sur la table en me parlant d'un sujet que moi, je comprenais déjà, tu vois, la psychologie et les biais cognitifs et l'irrationalité.
Ouais.
Donc, c'est comme ça que je vais aller de sujet en général.
Quand j'avais commencé mon site internet et que je l'avais mis en ligne, j'écrivais des articles de blog et j'avais écrit un article sur ce que j'appelais l'apprentissage composé et qui est en fait ce que tu décris, c'est-à-dire le fait d'être capable justement de tirer des liens entre chacun des livres ou de toutes les sources de connaissances que tu tires et tout ça te menant à la théorie des intérêts composés et donc le fait que, bah, en fait, à chaque fois que tu fais ces liens-là, ça te permet de débloquer, entre guillemets, genre des nouvelles compréhensions, etc. Et notamment, par exemple, pour tout ce qui est pensée abstraite, etc. Moi, c'est un truc que j'ai pas mal développé quand j'étais en Angleterre et que je lisais énormément de philo, de psycho, enfin, en fait, beaucoup de travaux de recherche académique. Et du coup, c'est des chercheurs, donc les mecs, ils parlent que théorie, quasiment. Il y a parfois de la recherche appliquée, mais dans les domaines que j'étudiais, c'était souvent des trucs très théoriques et... en fait, quasi que des expériences de pensée. Et le fait d'en avoir lu de plus en plus, etc., tu te mets à faire des liens, et du coup, tout te semble plus clair. Et c'est vraiment... enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti en mode... pendant 3 mois, tu captes rien, zéro. Et alors, moi, je sais que j'ai ça dans mes périodes d'apprentissage, j'ai besoin de faire un break, et quand je reprends, j'ai l'impression genre d'avoir switché. Et j'avais déjà ça au collège ou au lycée. Genre, je fais le programme de l'année, j'ai l'impression d'avoir rien capté, et au début de l'année d'après, ça me semble d'une facilité de ouf. Et donc là, j'ai eu ça pareil, et donc 3 mois, je capte rien, je fais une pause d'une semaine, tu vois, on avait des espèces de trimestres, et je reviens, et là, genre, j'ai l'impression que c'est trop simple, tu vois.
Et comment t'arrives à accepter cette période
où tu captes rien ?
Où tu captes rien, parce que c'est dur en vrai.
Ouais.
Il m'est déjà arrivé avec certains sujets d'avoir, des problèmes d'ego, j'ai envie de dire, ou enfin, c'est pas que de l'ego parce que c'est vraiment dur en fait. Quand tu comprends pas un truc et que tu bloques, ça décourage en fait.
Ouais.
Et de partir de ce sujet et d'essayer d'y revenir plus tard, mais sur le moment, je me suis pas accroché. Comment tu fais toi pendant ces moments-là où tu comprends rien? T'acceptes que t'es censé rien comprendre parce que quand t'es dans une bulle ou t'es dans ton truc, peut-être que toi du coup t'étais pas dans une bulle, tu lisais des trucs en rapport avec.
Qu'est-ce que t'appelles une bulle juste
bah,
pour.
Moi par exemple, quand j'achète un bouquin, c'est parce que je l'ai vu recommandé quelque part.
Ouais.
Mais. Si je comprends rien, je peux pas savoir si c'est normal. Des fois, c'est normal, par exemple, si je m'achète un bouquin de Nietzsche et je commence à le lire sans aucune référence externe et source de compréhension externe,
ouais.
Je vais rien capter, je le sais, c'est connu, mais un autre livre, je vais me demander, attends, c'est moi qui suis bête, enfin c'est moi qui suis lent à la détente, ou c'est un peu normal, entre guillemets, je comprenne rien. Comment tu fais, toi, à accepter ces moments-là avec humilité, en gros?
Je pense que, déjà, la période où j'ai fait ça, j'avais pas tellement le choix, dans le sens où, en gros, j'avais un an pour avoir mon master, et du coup, bah, avoir le niveau de connaissance de quelqu'un en master, alors que j'avais pas fait le bachelor avant et tout, donc en fait, j'avais qu'un an pour vraiment genre, plonger dedans de manière immersive à fond. Du coup, tu te raccroches à des trucs et t'as pas mal de petits tips. Ça fait très tips, des hacks, des machins, donc ça fait un peu pourri et tout. Mais en fait, ça t'aide pas mal. C'est déjà d'utiliser, alors dans les articles de recherche, il y a un truc qu'on appelle l'abstract, mais en gros, c'est un espèce de résumé au début du texte. En général, c'est compréhensible un peu par tous, tu vois. Et ça résume ce que tu vas trouver dans le doc. Après, clairement, quand il y avait des parties genre statistiques, probabilistes, etc., ou même dans des textes d'économie, parfois, tu as des calculs d'éco et tout, des trucs un peu complexes parfois. Ça, je saute, clairement. Okay. Et puis, tu lis les conclusions, tu vois. Et en général, au début de chaque paragraphe, tu as souvent une phrase qui explique le truc de manière simple et ensuite, ça se complexifie. Et pareil, à la fin, tu vois, tu lis la conclusion. Et en fait... Alors moi, c'était beaucoup des articles, du coup, tu te prends pas genre un bouquin de 300 pages où tu captes rien,
ouais.
C'est genre tu te prends un article de 16 pages et tu captes pas 12 pages sur les 16, tu vois.
Ouais.
Mais en général, t'as quand même l'abstract au début qui te permet de capter le sens général et du coup, des trucs que tu comprends pas, d'essayer de déduire par logique, tu vois, pour pas ressortir en disant « ok, celui-là a rien capté ». Après, ça m'arrivait aussi, hein. Il y a aussi des textes, vraiment, genre tu pipes rien, parce qu'en plus, parfois, t'as des références historiques, des trucs que t'as pas, et donc vraiment, ou même des refs à d'autres chercheurs, et tu sais pas ce qu'ils ont trouvé, donc ça n'a aucun lien. Mais le truc, moi, qui m'a pas mal permis de m'accrocher, c'est assez rapidement, en fait, parfois, tu te retrouves avec des mots qui reviennent dans beaucoup de textes de recherche, etc., et que vraiment, tu captes pas, et t'as beau chercher la définition sur Internet, vraiment, c'est pas compréhensible, tu vois. Et c'est souvent du jargon de chercheur, tu vois.
Ouais.
Mais en gros, moi, l'explication qui me vient, elle est assez intuitive, tu vois, je l'explique pas trop. Mais je sais, quand j'étais petit, ça m'arrivait parfois de lire des bouquins et de voir, par exemple, le nom d'un personnage et de le trouver trop compliqué et de le remplacer par un autre mot. Et typiquement, tu vois, ça me fait penser, genre, dans les Dragon Ball Z, du coup, je connais pas son nom parce que je l'ai toujours remplacé, mais le nom du type qui a un troisième œil, je l'ai jamais prononcé de la bonne manière, même quand je lisais... Bah, je l'ai jamais prononcé comme ça, même quand j'étais petit et que je le lisais, tu vois, je le prononçais autrement, et je le remplaçais par un autre mot. Et en fait, le fait de faire ça, du coup, bah, tu ne te butes plus sur le fait de pas capter le mot, ça reste un mot, tu vois, ça reste un ensemble de lettres auquel tu n'accordes pas de signification, jusqu'à ce qu'un jour, à force de l'avoir vu dans des contextes, dans des phrases, etc., tu captes, genre... Enfin, pour le coup, c'est dur à expliquer, parce que c'est un truc inconscient,
tu
vois. Je comprends
un peu ce que tu veux dire, quand tu lis des arrêts de la cour de cassation à longueur de journée, tu fonctionnes aussi un peu comme ça au début. Je vois très bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment tu choisis de commencer à développer une nouvelle compétence ou un nouveau sujet, et comment tu... établir à l'avance le niveau de profondeur que tu as envie d'avoir dans ce sujet-là. T'as des tips ou des petits hacks à donner à nos téléspectateurs?
Je suis tellement pas fan des tips, des hacks et tout. Je sais que parfois j'en parle dans mes vidéos et tout, mais c'est plus parce que ça intéresse les gens. Mais moi, je suis plutôt de la team. Si c'est trop simple, c'est que t'as mal compris.
Ouais. En vrai, moi, j'ai pas de réponse mais à ça. Si je veux savoir, je le fais assez intuitivement en fait.
De savoir à quel moment est-ce que
c'est souvent le hasard d'ailleurs. Ouais. Par exemple, là, c'est vrai que en fait, à chaque fois que j'ai les probas qui arrivent dans ma vie, je me dis, ah, ça serait cool à développer.
Ah oui, ouais,
je vois ce que tu veux dire. J'ai encore eu ça qui est venu dans ma vie et je me suis dit, ouais, mais là, ce livre m'a vraiment montré que ça avait vraiment un lien concret, en plus de système 1, système 2, ça a vraiment un lien concret avec les sujets qui m'intéressent vraiment au quotidien.
Et donc, est-ce que c'est pas la bonne intuition? Est-ce que ce serait pas le moment de... Bah, en vrai, ouais, moi, c'est un peu comme ça. J'aurais tendance à dire que, moi, il y a peut-être plus le facteur humain qui rentre en compte aussi. C'est-à-dire que, ça paraît con et t'as l'impression de l'entendre partout, mais au final, entendre des gens passionnés, ça rend quelque chose de passionnant, même si c'est pas un truc qui t'intéressait à la base. Et typiquement, tu vois, l'astronomie, le bouquin que je t'avais recommandé et tout, c'est en tombant de manière détournée sur quelqu'un qui parlait d'astronomie, Et je me suis dit, bah ouais, en fait, ça a l'air trop intéressant. Et puis tu commences à creuser, tu finis par trouver genre les experts du domaine. Et tu te dis, bah en fait, ces gars sont passionnants, tu vois. Et bon, en plus, dans ce sujet-là, il y a un physicien, moi, que j'aime beaucoup et qui est philosophe en plus en parallèle. Et c'est un peu les deux disciplines, genre, que je trouve vraiment passionnantes, etc. Et donc, à partir du moment où tu commences à avoir un peu tes refs, bah du coup, tu peux regarder les bouquins qu'ils recommandent, les trucs comme ça. Et le gros avantage aussi de faire ça, c'est que ça t'évite de tomber, je pense que tu connais ça, c'est un biais cognitif, mais dans l'espèce de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, je crois que c'est genre le...
L'effet de Dunning-Kruger.
Bah, c'est ça l'effet, mais en gros, tu as un truc où ça s'appelle genre le...
La vallée de l'humilité.
Alors, c'est l'inverse, je crois. C'est genre la vallée où tu crois que tu as tout compris alors que tu n'as que dalle compris, quoi.
Oui, oui, d'accord.
Et ben, en gros... Ça te permet aussi de ne pas tomber là-dedans parce que justement, ces mecs-là te préviennent que genre, c'est pas parce que tu as compris un truc que tu as tout compris et au contraire, tu vois.
En gros, pour ceux qui ne connaissent pas l'effet de Dunning-Kruger et pour le résumer très rapidement, c'est comme dirait Coluche, la culture, moins on en a, plus on l'étale, c'est comme la confiture. Donc en gros, les gens qui sont atteints de l'effet de Dunning-Kruger, c'est des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas et qui passent leur temps à croire connaître en gros.
Ouais.
Et l'effet pernicieux de cet effet-là, c'est que quand tu sais pas, tu peux pas te cultiver parce que tu sais pas que tu sais pas. Et c'est un truc ouf à connaître pour se prémunir du manque d'humilité. C'est qu'en gros, plus on connaît de choses sur un sujet, plus on se rend compte de l'étendue de ce sujet et plus on va être humble en fait.
Et plus on se rend compte qu'on ne sait rien en fait.
Non, qu'on ne sait rien. Et c'est marrant parce que juste à mon échelle, quand j'ai lu ce livre, Le Monde à portée de main, ça s'appelle, si ça vous intéresse, ce livre d'astronomie. Au début du livre, quand les connaissances étaient encore fraîches et que j'avais lu encore quelques dizaines de pages, je me suis
dit, tu connais tout.
Ouais. Tu connais tout à l'astronomie, t'es trop fort.
Mais parce qu'en fait, t'atteins le moment où tu connais tout, le peu que tu connaissais, enfin, en fait, le peu que tu savais que tu connaissais pas.
Et t'arrives à la fin du livre et tu dis, ah non, je connais pas tout. Et encore, hein, ce livre, c'est vraiment un livre de vulgarisation.
Ouais, grave,
c'est-à-dire que si
grave.
Tu le lis, en vrai, moi, ça m'a rappelé pas mal de concepts que j'ai vus. Rappelons-le, je suis allé en... littéraire, c'est-à-dire que j'ai pas fait de la physique super poussée, mais c'est quand même des concepts que j'avais déjà vus en seconde en physique. Donc c'est pas des concepts ultra poussés, mais ça te permet quand même de voir à quel point tu connais rien. Et c'est ça qui est cool dans les livres versus des formats peut-être plus rapides comme YouTube ou que sais-je encore, des TikTok, c'est que ça donne pas des hacks, ça donne pas des tips. Enfin, en tout cas, si vous lisez des livres sérieux, ça cherche à se concentrer sur des faits en fait et de la connaissance pure. Et donc, ça t'apprend à être plus humble, en fait.
Ouais.
Et comme a dit un grand homme, le respect passe par l'humilité. Respecter le savoir, SCH.
Ah ouais, c'est vrai.
Donc, respecter le savoir en étant humble.
Et surtout, en fait, le fait de... j'insiste dessus parce que je trouve que c'est trop important, mais le fait de reconnaître justement les experts d'un domaine, ça fait aussi que normalement, si c'est vraiment des experts, c'est les premiers à dire... Je crois... Enfin, tu vas avoir de la nuance, en fait. À pas être en mode, c'est ça la vérité, c'est ça. Et typiquement, c'est pour ça que quand tu vois... Enfin, l'exemple le plus parlant et récent de l'effet Dunning-Kruger à la télé et dans les médias en général, c'est les hommes politiques qui venaient parler du Covid sans jamais avoir fait médecine et en connaissant rien parce qu'en fait, même les plus grands médecins ne savaient rien sur le Covid, tu vois. Donc, c'est la plus grosse illustration. Alors que... Et c'est là aussi où justement le physicien... philosophe dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle Étienne Klein, s'est pas mal démarqué, c'est que ça a été le premier à dire « Les gars, en fait, personne n'est au courant de rien, donc arrêtez de vous acharner à dire « Il faut faire ça, etc. » Non, en fait, on va que essayer des trucs, quoi, parce qu'on peut pas être sûr. Et je trouve que c'est trop important de trouver l'expert qui est capable de cette humilité-là dans le domaine qui t'intéresse, parce que s'il n'a pas cette humilité-là, c'est que c'est pas un vrai expert, tu vois. Parce que justement, il a pas conscience de tout ce qu'il ignore. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le livre de Christophe Galfard dont on parlait donc sur l'astronomie. C'est le fait que, vu que c'est un chercheur en physique, c'est un doctorant, etc., il fait de la recherche ultra poussée dans des universités, il a conscience de l'étendue infinie et en fait du fait qu'on en sait moins que ce qu'on sait. Enfin, dans le sens où genre, tu prends la quantité des connaissances qu'on connaît, elle est minime par rapport à tout ce qu'on ignore, tu vois. Donc bref, tout ça pour insister sur le fait qu'il faut vraiment genre, trouver l'expert qui a conscience qu'il ne sait rien, tu vois. Parce qu'il n'y a aucun domaine où, en fait, un expert devrait tout savoir.
Et même parmi les experts, chercher à se diversifier, hein, parce que les experts sont aussi, les premiers à être touchés par des biais, des partis pris. C'est pas parce que c'est une étude qui a écrit le nom d'une université célèbre que c'est une étude incroyable.
Il
faut se concentrer sur des sources de qualité et c'est pas tous les jours facile à faire, tu vois.
Bien sûr.
C'est pas toujours
bien
facile.
Sûr, mais je trouve que, en fait, à force de le faire, t'as de plus en plus de repères et t'arrives de mieux en mieux à trouver. Et après, moi, je suis assez partisan aussi de... Bah, parfois, même si tu sais que la personne n'a pas forcément raison, dans le sens où c'est pas forcément tes convictions, c'est trop important aussi d'avoir d'autres sons de cloche, quitte à ce que, voilà, juste ça te renforce dans ton idée initiale, etc. Mais tu vois, au moins, tu vois différentes couleurs sur un domaine. Sans parler de politique et tout, tu vois, mais par exemple, en physique, il y a un truc assez fort sur... tu vois, il y a plein de théories pour expliquer plein de phénomènes différents. Et tu as, par exemple, les théories de multiverse, les théories, la théorie des cordes, plein de domaines comme ça, où genre, tous les chercheurs sont en mode, c'est sûr que c'est ça et tout, mais ça se trouve, toutes les théories qu'ils étudient, c'est faux, tu vois.
Ouais, ouais.
Mais c'est bien aussi d'avoir conscience, justement, que, en fait, c'est très expérimental, quoi. C'est pas du tout des trucs où tu sais comment tu vas trouver ce que tu cherches. Non, en fait, on sait même pas.
Oui, bah oui, c'est en disant que tu sais pas que tu vas pouvoir avancer. Parce qu'il y a des gens, très souvent, qui ont un avis sur tout, tu vois. Un avis sur tout, mais encore une fois, je crois que c'est encore Coluche qui disait ça.
Ouais,
ils ont un avis sur tout, mais ils ont surtout un avis.
Je sais pas si c'est de lui, mais je crois que je connais
cette phrase. Ouais. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable et je trouve ça triste des fois, tu vois, de s'enfermer dans ça parce que, comme je t'ai dit, c'est un cercle vicieux cet effet-là de Dunning-Kruger.
Ouais.
Moins tu sais que tu sais pas en fait.
Ouais. Carrément.
Et quand tu mets un pied dans la volonté d'acquérir du savoir et même. Dans la volonté de chercher la vérité, je dis pas que je cherche en permanence la vérité, je suis aussi un être humain biaisé, tu vois, mais le plus possible j'essaye, enfin j'arrive de moins en moins à lâcher des phrases choc par exemple à un repas en disant ce truc là c'est ça la réponse, tu vois, plus j'ai des connaissances et je suis rien en termes de connaissances, tu vois, plus j'ai l'impression que je mets de l'eau dans mon vin et je suis moins polarisé dans mon discours, tu vois.
Non,
et
comprends.
C'est difficile de parler à des gens qui n'ont pas cette gymnastique. Ça devient même difficile, en fait. Même le débat, quand tu n'as pas l'habitude de faire des recherches, tu es très vite émotif, en fait. Je crois qu'au début de ce podcast, on parlait de Jonathan Haidt. J'ai vu plusieurs interviews de lui. Il ne s'énerve jamais, genre.
Ouais.
Et même quand on lui lâche des trucs totalement en désaccord avec ce qu'il pense, calmement, il dit « Ok, je vois ce que tu penses. Ok, très bien. Mais... » Et donc... Après, il déroule son truc. Bon, après, c'est un truc qu'il connaît bien.
Je crois que je t'avais raconté, mais j'ai écouté un podcast avec lui il n'y a pas très longtemps. Et en gros, on le mettait face à des propos qu'avait tenus Mark Zuckerberg sur des études qu'il utilisait pour dire qu'en gros... ouais, c'est ça. Ouais. Pour dire que Facebook n'était pas du tout nocif pour les jeunes. Et le truc que j'ai trouvé formidable, ça ne m'a pas surpris venant de lui... Parce qu'il fait partie de ces experts, justement, qui ont suffisamment d'humilité pour se rendre compte qu'ils ne savent pas tout. Mais genre, les moments où il savait que... plutôt les moments où Mark Zuckerberg avait effectivement raison, il le disait, tu vois. C'était pas en mode
«
Non, je dis qu'il a tort quoi qu'il arrive, même quand il a raison. » Parce que quand tu commences à faire ça, t'as plus de crédibilité, en fait. Enfin, à partir du moment où t'es prêt à mentir pour défendre ton point de vue... Pourquoi est-ce qu'on croirait le reste de ce que tu racontes, tu vois? Et ça, c'est extrêmement rare pour le coup. Après, c'est là où tu te rends compte que lui, il défend l'intérêt général. Mais finalement, tu vois, s'il y a un problème avec le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour les jeunes, etc., bah, lui, ça l'attriste. Mais en fait, c'est pas non plus... Enfin, il n'y peut rien, tu vois. Il n'est pas président, il n'est pas député, etc. Donc, il n'est pas forcément totalement parti pris, si ce n'est dans l'idée d'améliorer la vie des jeunes américains, etc. Tu vois, mais il n'a pas ce parti pris, contrairement, par exemple, au PDG de Facebook, qui a tout intérêt à dire que non, ce n'est pas du tout un problème. Et...
Bah, c'est ça. Dans le débat d'avance, en fait, celui qui est PDG de Facebook, il doit apporter, selon moi, des preuves beaucoup plus solides que celui qui ne l'est pas.
C'est lui
ses preuves doivent
qui a la charge de la preuve.
Voilà, c'est lui qui a la charge de la preuve. Elles doivent être trois fois plus lourdes, ces preuves.
Et trois fois plus crédibles, en fait.
Trois fois plus crédibles.
Parce que tu te rends compte que finalement, t'as beaucoup de scandales d'études commandées par des boîtes et qui vont dans le sens de l'entreprise, comme par hasard, tu vois. Et dès que t'as une étude indépendante, elle est décriée, on dit qu'elle est mal faite, etc. Et pourtant, juste parce qu'elle donne des résultats inverses, quoi. Sans crier aux théories du complot et tout, je pense qu'il faut aussi être capable de faire la part des choses, mais clairement, en tout cas, tout ce qui est découverte, apprendre à apprendre, etc., c'est trop intéressant. Et je pense que c'est un des premiers trucs, une des premières compétences genre, qu'il faut apprendre dans sa vie, en fait.
Qu'on n'apprend pas d'ailleurs.
À l'école.
On l'apprend jamais. Par exemple, j'ai appris très tard dans ma vie qu'il y avait plusieurs types de mémoire. En reparlant, je me demande si c'est vraiment si fondé que ça, ce délire des plusieurs mémoires. Mais il y a des personnes qui m'ont dit, après je ne sais pas si c'est un effet placebo, mais qu'elles apprenaient mieux en entendant ou en regardant. Enfin, tu vois. Moi, je sais par exemple qu'à la sortie d'un cours d'amphi, j'ai appris vraiment pas mal de choses. Et quand je relis mon cours, je vais réussir à l'intégrer vite. Mmh. Alors que quand je ne vais pas à l'amphi, c'est mort en fait. C'est mort de ouf. Alors qu'il y a
genre
des
si
gens...
t'avais juste les notes
ouais,
de
ouais,
quelqu'un.
Ouais, si juste les notes de quelqu'un, c'est mort. Alors qu'il y a des gens qui ne vont jamais aux amphis et qui arrive à tuer les examens, tu vois.
Ouais.
Mais moi, j'y arrive pas. Mais bon, bref, je sais pas s'il y a plusieurs mémoires, si c'est vrai ou si c'est faux, mais il y a évidemment une science de l'apprentissage qui n'est pas apprise, qui n'est pas du tout apprise dès le plus jeune âge. Ce qui est dommage parce qu'encore aujourd'hui, je pense que moi, par exemple, ça me suit, tu vois. Dans certains, j'ai réussi un peu à reconstruire tout ça, mais je pense qu'il y a certaines lacunes que j'ai à cause de ça.
Bah, c'est surtout qu'en fait, ça fait partie des trucs où, genre, pour le coup, enfin, je sais que. On en parle de temps en temps en off, mais moi, je suis hyper intéressé par tout ce qui est méta-compétences. Donc, en gros, les compétences qui te permettent de progresser dans toutes les autres compétences. Donc, typiquement, tu as genre la capacité de communication, les compétences, ce dont on parle, tu vois, le fait d'apprendre à apprendre. Et c'est toutes ces compétences-là qui, genre, te permettent d'être bien meilleur dans tout, tu vois. Et en gros, le gros intérêt de ça, c'est que apprendre à apprendre, genre si tu fais ce truc-là en premier, pour le coup, il n'y a pas une autre chose que tu vas faire pour lequel ça ne te sera pas utile, quoi.
Il y a un bouquin sur ça, mais je ne me rappelle plus le nom.
Sur les métacompétences
sur apprendre à apprendre, qui est assez connu. Ouais. Mais bon, bref.
Ok, ça ne me dit rien, mais...
On en parlera en off, désolé. Vous n'aurez pas la ref, ou peut-être dans la description du podcast. J'ai au moins un ou deux bouquins. Il y en a un qui s'appelle The Art of Learning, donc l'art d'apprendre.
Ça me dit quelque chose, ouais.
Mais il paraît que c'est... Ça a un peu mal vieilli, c'est plus une biographie qu'autre chose, d'un mec qui est devenu trop chaud pour tout apprendre. Et il y en a un qui est vraiment très théorique, mais j'en ai plus du nom, désolé, ça m'échappe.
Ok. Bah, si on le retrouve, on le mettra en.
Sur la couverture, il y a une équation, je crois, et un arbre de la connaissance. Voilà, si ça peut aider des gens. Voilà.
Vous avez les indices maintenant, à vous de trouver.
Chasse au trésor.
Le jeu de piste, genre en podcast. Mais ouais, je trouve ça trop intéressant, et effectivement, moi, c'est un de mes grands regrets, genre, c'est de pas avoir débloqué ce truc plus tôt. Cela dit, il y a des gens qui le développent jamais et c'est encore pire, tu vois.
Non,
mais...
c'est clair, mieux vaut tard que jamais.
Ouais. Et puis surtout, je trouve que ça débloque aussi un truc dans ton cerveau, genre une espèce de barrière mentale qui est que tu te dis, en fait, il y a rien que je ne sache pas encore faire, que je ne pourrais jamais apprendre, tu vois.
Je sais pas.
Bah,
on
moi,
en revient à la question
vois,
des probas et des
que...
statistiques. Est-ce que j'ai pas, de manière innée, un désavantage par rapport aux autres pour comprendre l'abstraction mathématique, par exemple? J'en sais rien. Je ne pourrais savoir que en tryhardant pendant des semaines.
Ouais.
Et c'est ce que je pense que je vais faire sur ce sujet-là. Je saurais que là, en fait.
Ouais, alors la seule nuance que j'apporte, c'est que quand je dis qu'il n'y a rien que tu ne puisses pas apprendre, c'est que, évidemment, il y a une limite. Enfin,
tu parles d'acquérir un niveau correct.
Oui, c'est
oui,
ça.
Je suis d'accord.
Dans le sens où, genre, oui, si demain on veut devenir physicien nucléaire et, tu vas bosser sur des bombes nucléaires, sur des centrales nucléaires, des trucs comme ça, bah oui, c'est peut-être un peu tard et peut-être que c'est possible, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peu réaliste.
En fait, t'as pas d'excuse pour pas acquérir une base un peu acceptable.
Et puis même un niveau assez solide au final, tu vois, parce que genre, en fait, c'est comme en astronomie, tu vois, tout ce qui est dans le bouquin de Christophe Galfars, ça reste de la vulga, c'est accessible en vrai. Alors évidemment, comme c'est les premières fois que tu lis le truc et tout, ça peut être un peu compliqué. Mais en fait, tu lis 2-3 bouquins sur le sujet et puis tu commences à être familier. Et...
Moi, il y a un truc qui m'impressionne, que j'ai appris grâce à toi d'ailleurs. C'est, depuis que j'ai appris ça, ça me donne encore plus envie de me dépasser en termes de connaissances. C'est la notion de polymath.
Ouais.
Un polymath, si tu veux définir pour
mais
nous.
Mais
mec,
en vrai, moi, je voudrais qu'on fasse ça ensemble sur nos chaînes.
Un polymath, en gros, c'est un mec qui sait faire énormément de choses. En gros, c'est ça.
C'est
à partir de combien de choses qu'on peut dire que t'es un polymath?
C'est une très bonne question, mais la définition n'est pas trop définie comme ça. En gros, à la base, un polymath, c'était quelqu'un au Moyen-Âge et à la Renaissance qui était capable d'être excellent dans plusieurs domaines. Le truc, c'est qu'en fait, ce mot-là est apparu très tard et donc a posteriori, on a accolé ce mot-là à des gens, mais tu vois, de l'Antiquité, etc. Il n'y a pas une définition vraiment précise, mais l'idée générale, c'est de dire c'est quelqu'un qui est capable de développer des compétences très avancées, donc genre quasiment, en anglais, on dit state of the art, mais en gros, c'est genre de devenir un expert dans son domaine, dans des domaines qui n'ont rien à voir. Et donc, typiquement, tu vois, je parlais du mec qui est philosophe et physicien. Bah, je trouve que c'est un début de polymathie. Ouais. Je ne sais pas comment on dit.
Mais De Vinci, c'est un polymathe connu, par exemple.
De Vinci, clairement. Mais tu vois, De Vinci, quand tu fais la liste genre, de tous les domaines dans lesquels il a acquis des compétences de ouf, bah, t'as des trucs genre la botanique, l'architecture,
et
la sculpture.
Et le mec, il a pas vécu les mathématiques. Jusqu'à 90 ans, si je dis pas
de mémoire, il a vécu genre 60, 70 ans,
un truc
comme ça.
Vous vous rendez compte? Des fois, quand je vois des trucs comme ça, je me dis...
Après, mec, alors, évidemment, il chillait pas sur WhatsApp, exactement. Il écrivait pas des messages toute la journée, il avait pas Instagram, et il checkait pas ses likes, et tu vois...
Je vais pas occulter la part dînée, parce que je pense qu'il y a quand même une part dînée. Mais quand je vois des mecs comme ça, je me dis, mais t'as pas d'excuses, en fait, pour avoir quelques bases sur certains sujets de base.
Dans plein de domaines différents,
Comme t'as dit, c'est exactement ce que j'allais dire après. Un peu moins d'Instagram, un peu moins de checker ses mails, un peu plus de, pendant X semaines, je vais tryhard ce sujet-là et je vais en sortir avec des compétences. Ouais. Je vais pas me prendre pour un pro, parce que c'est encore un des trucs de l'effet de Dunning-Kruger. Plus tu connais, moins tu te prends pour un pro...
Mais cela dit, si tu vas jusqu'au bout où tu sais ce que tu ignores, bah au moins tu sais ce qui te reste à apprendre.
Oui, c'est ce que j'allais dire. T'apprends une base, tu te prends pas pour un pro, mais au moins t'as cette base-là.
Ouais.
Et tu passes pas pour un débile quand j'en parle, quoi.
À force d'avoir ces bases-là dans plein de domaines différents, bah tu construis ce dont on parlait tout à l'heure, genre qui est ton arbre de connaissances, et tu commences à opérer genre les comment j'avais appelé ça, l'apprentissage composé. Et du coup, à faire des liens, tu vois, entre la botanique et l'architecture, entre l'architecture et la sculpture. Bon, c'est un peu pareil, ça, les liens paraissent un peu plus évidents. Mais, et la musique, enfin, tu vois, du coup, des trucs qui n'ont vraiment rien à voir. Et après, la petite particularité, je me demande, mais quelque part, tu avais d'autres désavantages aussi, parce que tu vois, j'allais dire, l'avantage qu'avait De Vinci à son époque, c'est que les étendues des connaissances étaient quand même moins grandes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, clairement, si tu veux commencer à devenir un expert dans 3-4 domaines, c'est quasi impossible. Enfin, en tout cas, de devenir un des meilleurs dans le domaine, c'est quasiment impossible. À l'époque, je pense que l'étendue des connaissances était bien plus faible. Du coup, c'était, je vais dire, plus simple. Mais le truc, c'est qu'après, tu avais aussi l'accès à la connaissance qui était un énorme problème.
Je pense que les connaissances qu'ils connaissaient, elles étaient déjà bien plus solides que les connaissances de n'importe qui aujourd'hui,
qui a
encore moins d'excuses, tu vois. Non, mais le savoir,
le savoir, il est
partagé aujourd'hui.
Bien sûr. Mais après, à l'époque, tu avais aussi ce truc-là de... tu bénéficies du mécénat, etc. Tu vois, donc quand tu devenais architecte, t'avais pas besoin d'aller faire des chantiers, je vais dire de merde, c'est pas le mot, mais tu vois, genre des petits chantiers où en fait tu vas pas apprendre grand chose, c'est juste pour pouvoir te loger, etc. Alors que lui, tu vois, il trouvait des mécènes, il pouvait peindre, parce qu'au final, moi, un des trucs qui m'avait fasciné avec De Vinci, c'est que genre, il a peint un nombre absolument ridicule de tableaux, tu vois. Genre, il a très peu d'œuvres qui sont restées, tu vois. Et pourtant, genre, c'était vraiment un des plus grands génies qui a des cahiers de dessin et tout. Enfin, c'est incroyable.
Après, je pense quand même que c'est important de ne pas trop se disperser non plus. Tu peux aussi tomber dans l'écueil inverse qui est de vouloir absolument tout apprendre. Mais c'est important, c'est ce qu'on appelle, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais les T-shaped skills.
Ouais.
En gros, les T-shaped skills, c'est des compétences qui ont la forme d'un T. C'est-à-dire qu'en gros, sur l'axe, si je dis pas de bêtises, hein, corrigez-moi si je me trompe, en mettant un 5 étoiles sur notre podcast. Non, je rigole. L'axe vertical, ça va être les domaines dans lesquels on peut atteindre l'excellence. Et l'axe horizontal, ça va être des domaines un peu...
dans lesquels on a des connaissances, voilà, mais on n'est pas un expert.
Voilà, un peu moins profond. Et moi, je pense, à titre personnel, hein, c'est totalement arbitraire, que c'est bien d'atteindre l'excellence à la fin de ta vie, si tu as bien géré le truc, 3 bons domaines où tu as atteint l'excellence, je trouve que c'est bien. Et après, les domaines secondaires, pour moi, c'est illimité, tu vois. Tu peux avoir des branches liées, si on reprend la métaphore de l'arbre de la connaissance, tu peux avoir des branches liées à ton domaine principal, mais tu peux avoir des électrons libres, sans mauvais jeu de mots, où tu vas chercher à apprendre l'astronomie, tu vois.
Ouais.
Voilà, donc 2-3 compétences super solides et toujours y revenir de temps en temps, tu vois. C'est ce que je pense.
Ne serait-ce que parce que les domaines évoluent et donc potentiellement, tu as des nouvelles recherches qui ont été faites sur le sujet, etc., quoi.
Même dans mes lectures, j'essaye toujours de revenir à un certain socle quand même
de connaissances,
de domaines et de connaissances, ouais.
Non, je suis d'accord. Et
pour pousser le truc à fond, tu vois.
Ouais. Et je crois que pour le coup, enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce domaine, il revient souvent, le truc du T-shape skills, il revient souvent genre avec Elon Musk, où il y a plein de gens qui disent, ouais, Elon Musk, en gros, c'est ce qu'il a fait, tu vois, au lieu d'être juste un... Parce que je crois que... Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois qu'en gros, avant... on recommandait surtout aux gens de devenir des I.
I-shaped.
Ouais, oui. C'est ça. On dit ça. Enfin, du coup, c'est
I. Je pense que ça se dit, ouais. I-shaped skill.
I-shaped skill. Et du coup, le délire, c'était en mode, bah, en fait, vous prenez votre domaine et genre, vous creusez, machin. Mais sauf que du coup, ils étaient incapables de bosser avec qui que ce soit d'autre parce qu'ils avaient zéro connaissance dans les autres domaines, tu vois.
Et surtout qu'en tant que développement humain, tu deviens une coquille vide, en fait. Non ? T'as jamais connu des excellents étudiants dans ton domaine, mais qui savaient pas aligner deux mots autour d'un verre dans un bar à côté ?
J'avoue que j'ai pas pensé au fait que tu développais aussi des qualités sociales quand t'es en T-shape, tu vois. Mais effectivement, mais pour le coup, ça, j'ai presque envie de dire que, en fait, quel que soit ton domaine, genre, c'est un truc de ouf. Moi, je l'ai accepté, entre guillemets, assez tard parce que je trouvais ça super superficiel pour le coup. Mais en fait, de savoir s'exprimer correctement, de bien présenter, entre guillemets, tu vois, genre de paraître propre, sympathique, machin, et de savoir communiquer avec les gens, en fait, c'est trop important. Enfin, et c'est des compétences qui semblent évidentes, et du coup, que tu te dis, bah, j'ai pas besoin de le bosser, de toute façon, je suis en contact avec des gens tous les jours. Mais en fait, y a plein de gens, et moi, je l'ai vu, tu vois, même en bossant, et même moi-même, tu vois, je me suis déjà fait la remarque en bossant. En fait, c'est genre probablement la problématique numéro un de toutes les entreprises, quoi. D'avoir des gens qui sont capables de bosser en groupe, quoi. Et particulièrement dans des boîtes aujourd'hui où, en gros, la structure hiérarchique est de moins en moins présente, les gens sont de plus en plus au même niveau et collaborent, en fait. C'est plus le patron qui te dit quoi faire, et d'où l'intérêt, du coup, de devenir de plus en plus généraliste, anti-shape, idéalement, quoi. Si, en plus, t'arrives à développer une expertise, c'est
pour moi, ça, c'est important. C'est fondamental. Un des premiers livres de dev perso au sens large que j'ai lu dans ma vie, c'est « Atteindre l'excellence » de Robert Greene. Et j'ai gardé cette idée-là, selon laquelle il faut atteindre l'excellence dans quelques domaines, quand même.
Ben, je pense que, surtout...
Même en termes de comment tu vas te sentir après dans la vie, en fait, c'est bien de genre savoir de que tu es solide. De confiance en soi, c'est bien de savoir que tu es solide sur certaines compétences.
Ouais.
C'est bien de savoir que sur certaines compétences, tu peux avoir ton mot à dire, en fait.
Ouais.
Si tu connais un peu tout, bah tu finis par tomber, disons-le, dans l'effet Dunning-Kruger, tu vois. Et tu finis par juste lire des résumés d'articles du Monde sur ton téléphone parce qu'ils ont été republiés sur Facebook. Et après, tu as ton avis à la table, tu vois.
Ouais.
Combien de fois, moi, ça m'est arrivé, tu es en train de manger, il y a des gens qui racontent de la merde, tu sais que c'est de la merde. Mais bon, moi, je suis pas du genre à reprendre les gens, je m'en fous, tu vois. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire.
Surtout
en fait, je veux pas passer pour un salaud, mais peut-être que ça pourrait les aider des fois, tu vois. Juste leur dire, écoute...
Ouais, je pense qu'en fait, sur le coup, ça les aide pas, parce qu'eux, ils vont se sentir attaqués, et ça va être en mode égo, genre, putain, il a découvert que je connaissais rien, parce que je pense qu'ils le savent, ces gens.
Et du coup, juste pour boucler la boucle, en gros, ces trucs-là, je me sens assez solide pour en parler, et du coup, quand je vois des gens parler de ça, bah ouais, comme je te dis, en gros, pour revenir à ça, ça m'attriste un petit peu, quoi. Tu les confrontes à leur effet Dunning-Kruger à quel moment, en fait ? Si c'est pas à l'instant T.
Bah, c'est pour ça, après, et on en revient, tu vois, aux communication skills. C'est genre, potentiellement, le bon moyen, c'est plus genre de les questionner pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes que, bah, potentiellement, ils ont tort. Mais c'est clair que ça demande beaucoup plus. Enfin, du coup, tu prends sur toi, etc. Alors que t'aurais qu'une envie, c'est de leur dire, mec, tu dis n'importe quoi.
C'est la merde.
Ouais. Bah, c'est la première réaction, mais sauf que, en fait, si tu veux que ça puisse avoir un effet rapidement sur lui, il faut lui dire, mais t'es sûr, parce que moi, je crois que j'avais lu un truc. Enfin, tu vois, il vaut mieux que tu lui laisses une porte de sortie où il peut dire, ah ouais, t'as peut-être raison, peut-être je me souviens mal, ou tu vois. Alors, si tu lui dis frontal, genre, mec, tu connais rien, en fait, tu racontes de la merde, il risque de se vexer et d'être en mode, bah, vas-y, c'est un con, lui, en fait.
Je sais pas si j'ai déjà raconté cette anecdote dans ce podcast. Je crois que je l'ai raconté il y a pas longtemps à quelqu'un, en fait, mais pas dans ce podcast.
Ouais.
En gros, on parlait avec un gars, et c'est un gars qui parle beaucoup, tu vois, qui disait beaucoup de conneries à la minute. Et ce jour-là, j'étais un peu de mauvais poil. Je me suis dit, je vais le confronter. Et il a dit un truc sur un sujet qui était factuellement faux. Si tu t'intéresses un peu au sujet, c'est faux. Tu vois, c'était du sensationnel et tout. Je lui ai expliqué point par point pourquoi c'était faux. Je finis par sortir une phrase que je déteste, mais c'est en gros, tu sais, il y a beaucoup d'analyses très sérieuses, de cabinets d'analyses très sérieux, qu'on sorti des études sur ça, et ce que je dis, c'est vrai pour le coup, en fait, c'est pas subjectif. Il m'a répondu, bah non, mais moi j'ai vu d'autres études. Et donc, en gros, de là, je l'ai regardé, je me suis dit, bah ok, bah y a rien à dire, en fait.
Ouais.
On en est à ce niveau-là, tu vois. Genre, je t'ai fait comprendre point par point pendant 5 minutes que tu venais de dire de la merde, on le sait tous, je t'ai pas non plus humilié, je t'ai juste, voilà, juste dit, t'as dit de la merde, admets-le, mais il était tellement enfoncé dans ses billets, tu vois, qu'il était en mode, ouais, bah moi j'ai lu une autre. Donc on est, ouais, carrément, on est rentré dans une subjectivisation de la vérité, tu vois. Ouais. Pour le coup, c'était même pas un truc biaisé ou quoi, c'était objectivement, genre, c'était des faits, tu vois.
Bah, c'est ce qu'appellent les chercheurs, depuis quelques années, en gros, appellent ça l'ère de la post-vérité, quoi. Mmh. Genre, la vérité est devenue subjective. Clairement. Et donc, si Trump dit, moi, je pense que ça, c'est faux et que ça, c'est vrai, bah, potentiellement, il a raison. Mmh. Alors, évidemment, ça reste aux yeux de la population générale, parce qu'en fait, les gens qui savent que c'est faux, tu vois. Mais le problème, c'est que le poids de l'opinion publique est devenu tellement fort que si l'opinion publique a tort, mais qu'il est majoritaire, on décide qu'il a raison, quoi.
Tu sais que Steven Pinker, dans son livre, il y a pas mal de fois où il fait référence à cette fameuse ère de la post-vérité.
Okay.
Et il dit un truc que j'ai trouvé assez juste, c'est qu'en gros, la plupart des gens qui croient dans tout type de théorie du complot ou encore théorie un peu farfelue,
ouais,
ils devraient être capables de mettre les actions en place pour que ces théories du complot cessent. Je te donne un exemple.
Ouais,
je connaissais pas du tout ce
complot.
Non, je connaissais pas du tout. Oui, c'est un complot. Avant, que je lise ce livre, c'est le Pizzagate. Je sais pas si t'en as entendu parler. Connais.
C'est le truc avec des enfants.
Ouais, des enfants qui se faisaient violer dans une cave. Et Hillary Clinton était, paraît-il, liée à ça.
Ouais.
Et il expliquait, si t'es pas prêt à appeler la police pour que des gens aillent au sous-sol, pour en gros, que ça s'arrête, pourquoi tu continues à y croire? Pourquoi les personnes qui croient au complot du 11 septembre en parle aussi ouvertement, alors que paraît-il, c'est les puissants qui nous écoutent.
Ouais. Oui, et du coup, quelque part, ils risqueraient leur vie. Et...
En gros, c'est ça. Une idée, est-ce que tu es prêt à la défendre dans les faits, surtout si elle est aussi atroce que ça? Oui ou non? Sinon, essaie de trouver des trucs qui feraient que c'est peut-être faux, quoi.
Ouais. Mais je pense que c'est tout le souci du truc, tu sais, c'est que tu as des espèces de mouvements et des formations de communautés en ligne ou même physiquement. Mais du coup, tout le monde essaye un peu de trouver un groupe auquel appartenir. Et donc, il y a des gens qui trouvent les complotistes, tu vois, ou les platistes, ou tu vois. Et ça devient en fait une identité de communauté, quoi. Parce que je pense que, tu vois, pour avoir vu quelques reportages où en gros, c'est en général, c'est un mec qui s'infiltre dans une communauté de platistes et machin, qui commence à leur expliquer et tout. En fait, assez vite, tu te rends compte que les mecs sont pas prêts à écouter le moindre argument. En fait, ils ont pas un débat logique, ils ont un débat idéologique, tu vois. Donc, ils sont en mode, t'es pas en train de me prouver que, j'en sais rien moi, que cette boule est sphérique. Mm. On parle d'autre chose. Donc, en fait, on parle de, est-ce que toi, tu crois que... Mais sauf qu'on parle pas de croyance, en fait. On parle de factuel, de tangible, d'un truc qu'on peut voir, etc., tu vois. Donc le débat a pas lieu, il y a pas d'échange en fait, les deux personnes parlent de trucs différents, et donc je pense que c'est plus un espèce de, pas de repli communautaire, mais en mode, ils veulent appartenir à un truc et du coup ils sont prêts à sacrifier la vérité, parce que tu sais, ça, moi ça me fait penser en fait aux expériences qui ont été faites en psychologie, où tu mets quelqu'un dans une salle avec deux autres personnes, tu leur montres trois bâtons, et genre au début tout le monde répond juste, et à la fin, genre les deux complices, ils commencent à répondre faux. Ouais. Et la troisième personne va répondre faux en mode, je préfère suivre le groupe et avoir tort.
Ouais.
Enfin, et penser que j'ai raison plutôt que d'avoir réellement raison, tu vois. Et je pense que c'est exactement cet effet-là, mais appliqué à grande échelle avec des complots, etc., tu vois. Des belles histoires.
Après, c'est sûrement un travail à faire, et à titre individuel, et à titre collectif, tu vois. Sur qu'est-ce qu'est la vérité? Sur certains sujets, parce que sur certains sujets, on peut établir factuellement ce qu'est la vérité. Mmh. On parle pas d'avoir son opinion sur tel ou tel sujet qui n'est pas forcément réglé.
Mmh.
Mais le fait que la Terre soit ronde, je pense que c'est assez bien documenté, tu vois.
Ouais.
Donc à titre individuel et je sais pas, à titre collectif, ce qu'il faudrait faire pour ces personnes. Encore une fois, ça doit sûrement jouer au niveau de l'école, où tu dois donner des cours et de logique, et de pensée critique.
Parfois, dans le domaine public, et les hommes politiques, les chercheurs, etc., font des raccourcis et du coup travestissent un peu une pensée initiale. Et parfois, c'est pas forcément un mensonge direct, mais en gros, ils utilisent une forme de logique qui est biaisée pour apporter un point. Et du coup, le fait d'avoir démocratisé ça fait que maintenant, tout le monde l'utilise et trouve ça normal et considère que puisque tout le monde le fait, ça fait sens, tu vois. Et je dis ça... par exemple, tu vois, il y a quelques mois, t'as un homme politique qui a dit, Et même si on parle en général sur les différents gouvernements de ces dernières décennies, plusieurs fois, tu as des hommes politiques qui disent, en gros, pour le sujet de l'insécurité, par exemple, moi, je ne m'attaque pas à l'insécurité genre factuelle, en mode je veux que les chiffres baissent, je m'attaque au sentiment d'insécurité. À partir du moment où tu essayes de résoudre un problème sentimental, émotif, d'impression, tu peux pas quantifier si ça marche ou pas. Ou alors tu fais que des trucs superficiels en mode on va donner l'impression que les gens sont en sécurité. Mais du coup, tu fais quoi? Tu construis un mur comme Trump, tu mets des grilles devant tous les immeubles. Enfin, ça devient. En fait, tu essaies pas vraiment de résoudre le problème. Tu essaies d'être élu, je pense, déjà, c'est le premier truc. Mais en plus de ça, du coup, tu travestis la vérité et ce qui devrait être ta fonction.
Et quoi. À ce moment-là, les faits ne t'intéressent plus, quoi.
Exactement.
En fait, c'est vraiment un sujet passionnant, en fait, le sujet de la connaissance. Je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures tous les deux, vu que c'est un des sujets, je pense, qui nous intéresse le plus.
On le fait souvent, d'ailleurs.
En privé, ouais. On le fait souvent. Et on continuera sur ce podcast parce qu'on aime bien...
C'est un sujet infini,
en vrai. Est-ce qu'on est un peu des chercheurs de vérité, en fait? est-ce qu'on serait pas une road to polymath?
En vrai,
est-ce qu'on
essaierait
pas de devenir des polymathes?
Je suis méga chaud.
Non, en vrai, l'apprentissage de nouvelles choses, c'est quelque chose de... Comment dire? Non, vraiment, j'abuse à peine en disant ça.
Pour moi, honnêtement, ça peut être un why de Simon Sinek.
Un pourquoi.
En vrai, je me demande si le mien, il est pas très loin de ça, tu vois.
Ouais. Et c'est marrant parce que quand je pense à ça, j'ai toujours un double sentiment. À la fois, je me sens mieux quand j'apprends des choses, mais je me sens aussi écrasé par ce que j'apprends.
Par le poids de la connaissance.
Parce qu'il me reste à apprendre, en fait. C'est les sujets bateaux de philo.
Mais c'est ça qui est génial aussi.
L'intelligence ou la connaissance, la lucidité crée-t-elle le malheur ou des trucs comme ça,
tu vois. Ou même encore plus bateau, genre, tu vois, la phrase toute faite de « imbécile heureux », de « on ne peut pas être heureux si on est intelligent », enfin, tu vois, tous ces trucs-là. En vrai, je pense que ça soulève une vraie question.
Ouais.
Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, je le prends en mode, j'adore à la fois, c'est un peu les montagnes russes, en fait, quand tu te lances là-dedans, dans le sens où tu vas effectivement subir l'effet de Dunning-Kruger de ouf. Donc, il y a un moment où tu vas dire, putain, je comprends tout, c'est génial. Et deux jours après, tu te dis, ah ouais, non, je comprends rien, en fait. Enfin, je ne sais rien. Et c'est ça, genre, c'est inlassablement ça à répéter. Et moi, je trouve ça génial, genre, vivre, d'avoir cette réalisation-là à chaque fois, alors que ça fait 10 fois que tu le vis.
Je pense que je suis allé trop loin dans ça pour m'arrêter maintenant, tu vois. Et encore une fois, je suis personne en termes d'apprentissage de la connaissance. Enfin, je veux dire...
Mais si ça peut te rassurer, personne n'est personne, en fait.
Pour te dire, en gros, je ne veux pas me faire passer pour ce que je ne suis pas.
Non, je comprends.
Je pense juste que j'ai quand même chopé une certaine gymnastique, une certaine logique au quotidien.
En tout cas, un plaisir à le faire.
Voilà, je suis assez curieux et j'aime rechercher plus de connaissances, voire des fois la vérité. J'aime pas trop ce terme, mais tu vois, les faits, en fait. Si on doit remplacer la vérité par autre chose, les faits, l'expérience factuelle des choses. Donc, c'est vraiment passionnant. Et encore une fois, je pense qu'on pourrait en parler des heures, mais nous allons nous arrêter, malheureusement.
Ouais, on va passer au recours, je crois.
C'est l'heure des recommandations.
Tu veux commencer?
Allez, bah moi, je vais faire une recommandation dans la thématique de cet épisode. C'est un livre de Tom Nichols qui s'appelle « The Death of Expertise », en français, « La mort de l'expertise ». C'est un livre qui traite justement de toutes ces problématiques, de à quel point... les experts sont de moins en moins respectés, à quel point on met de plus en plus leur parole en doute. Et Tom Nichols explique ça, notamment à travers tous les biais qu'on a, le biais de confirmation, les bulles de filtrage, toutes ces choses-là. Et il utilise une métaphore que j'aime pas mal dans son livre pour expliquer qu'en gros, chaque expert est censé rester à sa place et qu'on n'est pas censé toujours vouloir avoir un avis sur tout. C'est que quand tu construis un immeuble, tu t'attends pas à ce que l'architecte se mette à poser les poutres et à peindre les murs, tout simplement. Donc chacun à sa place, restez humble et apprenez beaucoup de choses dans votre domaine et essayez de développer une expertise évidemment, mais respectez les experts.
C'est horrible parce que j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de raconter, mais du coup je vais pas le faire parce que sinon on va relancer la discussion. Et du coup je vais aller direct à ma reco parce que... ça prendrait trop de temps. Donc moi, cette semaine, je vais recommander une newsletter de quelqu'un que vous connaissez probablement sûrement déjà. Mais pour le coup, ça fait, je pense, un an et demi, un truc comme ça, que je dois être abonné à cette newsletter. Comme beaucoup de monde, puisque c'est la newsletter de James Clear, donc l'auteur de Atomic Habits, qui est genre, probablement parmi les 3-4 bibles du dev perso et en tout cas de la création et du maintien d'habitude. Et j'adore cette newsletter parce que, en gros, elle s'appelle 3-2-1, donc 3-2-1. Et c'est trois idées de lui en général, donc parfois issues de ses livres ou de ses articles, deux citations d'autres personnes qu'il a appréciées et qui trouvent font sens dans sa newsletter cette semaine-là, et une question pour la personne qui lit la newsletter. Et en général, c'est des questions assez profondes. Et c'est un truc qu'on n'a pas abordé dans ce podcast. Avec Lucas, mais qui rentrait pas mal dans la discussion, c'est genre l'importance aussi de savoir poser les bonnes questions et à quel point est-ce que, en fait, avant même d'essayer de chercher la réponse, il vaut mieux être sûr que c'est la bonne question. Et donc, il est assez fort là-dessus. Et donc, voilà, c'est Marocco de la semaine. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la newsletter est très courte, du coup, parce que c'est vraiment trois idées, deux citations, une question.
Ok.
Et c'est plié, quoi. Il n'y a pas de blabla, de trucs comme ça. Genre, tu te fais ton truc, mais du coup, comme c'est court. Bah, à chaque idée, à chaque citation et à la question, genre, tu te poses 2 secondes et
Ouais.
tu réfléchis. C'est pas le truc où t'es
C'est
assailli de
pas
texte.
indigeste.
Ouais, exactement.
Ok, c'est trop cool. En tout cas, encore une fois, c'est un sujet vraiment passionnant et ça pourrait être l'objet d'un, 10, 100, 1000 autres épisodes parce que c'est vraiment incroyable. En attendant, si vous voulez d'autres épisodes sur ce sujet, je te laisse le faire, Tom.
Ou
Qu'est-ce qu'ils
sur
font?
un autre, hein, même d'ailleurs, si
Qu'est-ce
vous
qu'ils
voulez
font?
d'autres épisodes, en fait.
Qu'est-ce qu'ils font, Tom?
Bah,
Dis-nous
c'est une
tout.
bonne question, je me souviens plus.
Tu te
Pourtant, tu
souviens
le
plus?
répètes toutes
Je
les
dois
semaines.
le dire encore cette
Non, non, c'est
semaine.
bon, je m'en souviens, je m'en souviens. Non, comme chaque semaine, ce serait génial si vous pouviez nous mettre la note de 5 étoiles
Sur 5, hein, pas sur 10, 5 étoiles sur 5.
sur votre plateforme de podcast favorite. Nous, ça nous permet du coup d'être plus visible avec le podcast et de continuer à faire des épisodes en ayant de plus en plus de monde qui écoute, de plus en plus de retours, etc. Donc pareil, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Instagram. Généralement, vous passez par Instagram.
D'ailleurs, on ne le dit jamais publiquement, mais merci.
Ouais.
Merci à toutes les personnes. Il y en a jusqu'ici peut-être une petite cinquantaine qui nous ont déjà mis des notes, toutes plateformes confondues.
Ouais.
Ça fait vraiment plaisir, vraiment. Et si vous voulez faire partie du clan des remerciés, mettez-nous une note, n'attendez plus.
Exactement. Peut-être même qu'on citera votre prénom. Non, non, non,
On
on fera pas. Je sens que je
citera pas
m'emballe.
votre prénom, mais on
Non, mais tu sais,
aura
la méthode
une.
des Patreons à la fin des vidéos YouTube, genre, mais bon, faire des listes de prénoms à la fin, c'est un peu chelou. Donc voilà, merci beaucoup, merci Lucas, et puis bah, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Le mec